Je vais quand même prendre le temps, avant de développer un certain nombre d'exemples, de positionner cette grille théoriquement, donc sans reprendre complètement ce que j'ai dit ce matin. Comment on passe de cette notion de collectif à cette notion d'organisation apprenante ? Eh ben, en remobilisant un certain nombre d'éléments de la littérature, donc ces notions de communauté de pratique, de communauté d'apprentissage professionnel, la notion de zone collective de développement proximal, qui s'ancre dans la théorie de l'activité, cette notion de collectif de travail développée par la clinique de l'activité, et puis deux expressions que j'ai utilisées ce matin, donc la notion d'organisation apprenante et les travaux d'Argerie Session, et puis un petit détour aussi par la sociologie des organisations, et en particulier les travaux de Vincent Duprier sur l'organisation des établissements scolaires. Alors, donc un outil qui s'ancre dans ce cadre théorique, mais qui est né aussi quand même, si je reviens sur la genèse de cet outil, d'un travail de monographie assez fin sur un collectif pluricatégoriel qui existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années dans un collège, le collège Garcia Lorca, qui est un collège situé en Ré+, dans l'académie de Créteil, et qui est aussi un LEA, donc un lieu d'éducation associé à l'IFE. Donc, qui travaille depuis plusieurs années avec Lucria et puis avec d'autres chercheurs sur la question de la formation sur la place du travail. Et donc c'est un collectif qu'on a interrogé de différentes façons. On s'est demandé comment est-ce qu'il s'était développé, quelle modalité de développement de ce collectif professionnel, selon quelle cyclicité, est-ce qu'on peut identifier des périodes, des moments porteurs, d'autres un peu moins porteurs. Des conditions de pérennisation. Est-ce qu'on peut identifier quelques éléments qui ont été essentiels pour permettre d'implanter ce collectif dans son établissement ? Et puis, des principes de fonctionnement, c'est-à-dire, quand on veut essayer de cerner le travail collectif, finalement, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention ? Sur quoi est-ce qu'il faut porter son regard ? Et c'est en questionnant donc ce collectif et en faisant des allers-retours avec la littérature scientifique sur cette question-là, qu'on a finalement construit un outil en trois dimensions. Donc je vais déplier rapidement là ces trois dimensions, et puis après je vais vous présenter une petite vidéo pour vous permettre de contextualiser un petit peu l'outil, donc une vidéo issue du travail réalisé à Garcia Lorca, et puis deux autres exemples rapides qui vous permettront de voir comment on peut interroger un collectif en utilisant cette grille. Alors, donc vers une grille de positionnement des collectifs professionnels, la première dimension, c'est la dimension temporelle. Donc est-ce qu'on peut identifier des étapes de transformation d'un collectif professionnel ? Donc là, je me suis appuyée sur les travaux d'Étienne Wenger qui a modélisé en fait le cycle de vie, ce qu'il appelle le cycle de vie des communautés de pratique, et qui montre que finalement, on passe d'une collection de professionnels avec des objectifs communs, qui vont à un moment donné identifier les potentialités du travail collectif. Un collectif va émerger. À certaines conditions, ce collectif peut fusionner au sein de l'organisation pour s'implanter pour une période plus ou moins longue. Et ensuite, s'ensuit une phase de maturation qui va déboucher ou non sur cette question de l'organisation apprenante. Et dans tous les cas, il faut mettre l'accent sur l'idée qu'il y a toujours transformation, selon des temporalités variables. Alors, l'idée ici, c'est bien de montrer que c'est cyclique, c'est-à-dire qu'un collectif, il va se développer, et puis si les conditions ne sont pas réunies, il peut redescendre à l'étape collection de professionnels, et qu'il n'y a rien de préétabli. Hein. On n'est pas toujours dans le déploiement de ces étapes les unes après les autres, et que parfois, on va être à la première étape, la deuxième, puis on va redescendre à la première, ou au contraire, il y a certains collectifs, et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, qui, dès le début, vont s'implanter dans l'organisation, qui vont vivre une période de maturation assez longue pour redescendre ensuite à la collection de professionnels. Voilà, donc avec cette idée que finalement, il y a une durée de vie des collectifs et qu'il ne faut pas forcément toujours chercher à pérenniser. Alors, donc première dimension de la grille, cette question du temps, de la temporalité et des différentes étapes de transformation. Deuxième dimension, quels sont les principes de fonctionnement d'un collectif ? Donc je reprends cette question des étapes de transformation et auxquelles on ajoute donc une deuxième dimension quatre principes finalement de fonctionnement si on veut comprendre l'organisation du travail collectif. Le premier à interroger, c'est quels sont les objets et les objectifs du travail collectif. Donc voilà, est-ce qu'un collectif est capable de mettre des mots précis sur ses objets de travail ? Et est-ce que ces objets sont opérationnalisés en objectifs qui font consensus ? Deuxième dimension, deuxième principe de fonctionnement, la question des modalités de pilotage du travail collectif. Est-ce qu'on est dans un pilotage plutôt par le prescrit ? Est-ce qu'on est dans un pilotage qui va être distribué de manière explicite entre les différents membres du collectif ? Et jusqu'à quel niveau d'horizontalité ? Voilà. Troisième principe de fonctionnement, la question de l'organisation du travail collectif qui va à la fois permettre d'identifier quels sont les temps, les espaces, mais aussi quelles sont les méthodes dont se dote un collectif pour fonctionner, les méthodes communes. Et enfin, quatrième principe de fonctionnement, la question des effets du travail collectif en termes de professionnalisation. Donc ça, c'est un principe important, bien entendu, puisque tous les collectifs professionnels ne sont pas vecteurs de développement professionnel. Donc c'est un principe qui est un principe clé, finalement, pour faire fonctionner cet outil. Et c'est en interrogeant, finalement, à chaque étape... c'est en interrogeant ces quatre principes de fonctionnement qu'on peut positionner, finalement, un collectif sur une étape de développement, sur une étape de transformation. Donc, deux dimensions. Mais deux dimensions qui ne sont pas suffisantes, puisque un collectif professionnel, si on veut le pérenniser, il faut penser son environnement. Donc si je reprends les deux premières dimensions, on aboutit à un tableau comme celui-ci, auquel on va ajouter quatre conditions de pérennisation qui sont essentielles. La première, c'est la question de la stabilité des membres du collectif, et de l'éthique professionnelle. C'est-à-dire que finalement, dans une équipe qui se renouvelle sans cesse, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place le cadre de confiance qui va permettre aux interactions d'être véritablement constructives et de rentrer dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les questions de controverses professionnelles, etc. Il faut construire la confiance, la reconnaissance des compétences de chacun, et ça, ce n'est possible que s'il y a un minimum de stabilité. Deuxième condition de pérennisation, la question du soutien institutionnel. Un collectif, quand il naît dans une organisation, s'il n'est pas reconnu au sein de cette organisation, il a peu de chances de pouvoir s'instaurer. Si on ne lui donne pas les moyens, à la fois en termes de temps, d'espace pour se réunir, c'est compliqué de fonctionner. Troisième condition de pérennisation, la capacité à faire du lien. Donc là, si on veut passer d'un collectif implanté à une organisation véritablement apprenante, il faut être en mesure de mailler en fait les apprentissages qui vont s'opérer au sein du collectif avec les autres acteurs qui sont peut-être extérieurs, mais aussi à faire du lien dans le temps. Hein, on sait que, en tout cas pour ce qui concerne les collectifs qui fonctionnent au sein des établissements scolaires, l'année scolaire, c'est une période de temps qui est significative, mais penser les liens d'une année sur l'autre, faire en sorte que le travail se poursuive d'une année sur l'autre, c'est un véritable enjeu. Donc penser aussi le lien dans le temps. Et enfin, dernière dimension, peut-être la plus importante, que vous avez déjà mentionnée dans les réponses au questionnaire ce matin et qu'on a déjà repris un petit peu, cette question des valeurs, des finalités et aussi des contradictions qui peuvent apparaître entre ces valeurs et entre ces finalités. Et finalement, c'est en questionnant tout au long du développement d'un collectif ces valeurs qu'on peut pérenniser sur la durée un collectif de professionnels. Et si à aucun moment... Dès qu'il est question d'éducation, il est question de valeur. Si à aucun moment les valeurs et les finalités sont interrogées au sein du collectif, il y a peu de chances que ce collectif puisse s'installer sur la durée et être vecteur d'apprentissage. Donc si on fait fonctionner ensemble ces trois dimensions, on arrive à une grille qui se présente comme ça. Donc on retrouve les trois dimensions, ici les étapes de transformation, ici les principes de fonctionnement et là, les conditions de pérennisation. Et puis, vous allez avoir à l'intérieur de la grille un certain nombre de critères qui vont vous permettre de positionner un collectif dans ces différentes étapes de transformation. Trois exemples qui vont vous permettre de voir comment on peut l'utiliser, cet outil, avec toujours ce souci d'abord de contextualiser un collectif, de voir dans quel contexte il s'inscrit, situer un peu son historique. Ensuite, dans un second temps, de positionner le collectif dans la grille. Et enfin, dans un troisième temps, d'essayer de voir, à partir de ce positionnement, quels sont les leviers, toujours en m'appuyant sur cet outil, quels sont les leviers qu'on peut identifier pour accompagner son développement. Voilà, donc trois temps à chaque fois dans mes présentations. Et donc trois collectifs, je vais développer un peu plus le collectif Garcia Lorca, puisque c'est celui qui a permis de construire l'outil. Et puis je vais passer un peu plus rapidement sur les deux autres collectifs que je vous présenterai, et simplement pour vous montrer que c'est des collectifs très divers, qui ont des objets et des objectifs très divers, et qu'à chaque fois, ils ont réussi à s'emparer, à s'approprier de cet outil. Donc première étape, je vais contextualiser un petit peu ce collectif, ce fameux collectif du collège Garcia Lorca. C'est un collectif qui est né en fait en 2007, entre 2007 et 2012, d'une convergence en fait de préoccupations entre plusieurs acteurs, chefs d'établissement, les enseignants référents, puisque c'est un établissement éducation prioritaire, les enseignants référents éducation prioritaire, et puis des chercheurs, qui tous s'interrogeaient sur cette question de comment on accompagne des débutants dans ce contexte particulièrement complexe qui est le contexte éducation prioritaire. Et donc ce collectif, il a émergé de cette préoccupation commune, comment on accueille des débutants. Et il a conduit à une collaboration entre ces différents acteurs, qui est notamment à l'origine de la création de la plateforme Néopass Action. Il y a un certain nombre de situations de Néopass Action qui sont filmées à Garcia Lorca. Donc première étape, 2007-2012, une convergence des préoccupations. Deuxième étape, et c'est celle-ci que je vais vous présenter un peu plus en détail, une étape où le collectif il a vécu, il s'est implanté dans l'établissement, il a fonctionné, et il a mis en place un certain nombre d'éléments, de dispositifs, pour penser la formation et l'accueil des nouveaux personnels enseignants à Garcia Lorca. Donc vous allez voir, ils ont développer un langage commun à Garcia Lorca, donc ils se sont baptisés de différentes façons, et notamment là, ce fameux Léa, ce lieu d'éducation à l'IFE, ils l'ont baptisé ANPE, Accueil des nouveaux personnels enseignants. Voilà. Et ils ont filé la métaphore dans tous les objets, les outils qui sont nés de ce travail collectif. Alors, je vais vous laisser regarder, en espérant que le son fonctionne cette fois-ci, un petit extrait vidéo qui vous permet de repositionner un peu le fonctionnement de ce collectif. Et je vais m'autoriser à faire quelques pauses pour vous permettre de bien repositionner les choses.
On était deux personnes qui avaient pour mission d'accompagner les nouveaux. Ça, c'est ce qui était écrit dans les textes. Comment on a essayé de mettre en forme cette formation continue pour nous, parce que c'était une formation continue, on l'a vu à ce moment-là comme essayer de mettre en place 6 ou 7 séances, parce qu'il fallait donner un nombre de séances aux enseignants, on l'a vu sous la forme de 6 ou 7 séances où on travaillait sur un échange de pratiques avec comme support l'analyse vidéo. C'était notre fil conducteur. On avait une décharge de 9 heures. Ça nous permettait quoi? Ça nous permettait d'aller vers les enseignants et de passer du temps avec eux. Parce que passer du temps, c'était préparer des enregistrements vidéo en salle, et puis ensuite les débriefer pour ensuite en parler en séance. Donc il y avait 3 temps bien définis.
Alors, donc, je vous le disais, ils ont filé la métaphore. Donc le SMIC, le service minimum à effectuer en tant que personnel arrivant à Garcia Lorca, c'est un parcours en fait. Donc Zouir parle de 3 étapes, en réalité il y en a 5. Vous allez voir, elles sont présentées dans la vidéo. 5 étapes qui permettent à la fois de s'approprier le contexte, de commencer à travailler avec les collègues et de manière de plus en plus précise, en rentrant de plus en plus dans les détails. Et ce que vous avez ici, c'est un petit exemple du livret d'accueil qui est distribué chaque année aux nouveaux arrivants et qui va reprendre à la fois des éléments assez classiques finalement du fonctionnement du collège et puis des éléments qui sont plus de l'ordre de l'implicite, c'est-à-dire les compétences de tel ou tel collègue, à qui il faut s'adresser pour avoir telle ou telle information, etc. Donc des choses qui sont plus tacites finalement dans la culture d'établissement et que là, les collègues ont rendu explicites dans un livret extrêmement détaillé. Et toujours avec beaucoup d'humour.
Mmh.
Donc Nicolas Monteil, professeur de français, contractuel. Donc c'est ma troisième rentrée. J'ai fait 7 établissements scolaires, deuxième rentrée à Lorca, collège dans lequel j'étais resté 3 mois et demi, où j'avais pu avoir la chance d'expérimenter le Léa. Une séance qui était filmée, sur laquelle on était revenu et on avait parlé notamment de la manière de poser sa voix. Et j'avais approfondi ça de mon côté sur aussi les questions de transition d'activité.
Alors pour ma part, moi c'est Vincent Lassagne. C'est ma première rentrée aussi à Federico.
Alors là, je fais juste une petite pause parce que on va suivre cet enseignant, donc qui est toujours enseignant à Garcia Lorca, qui est enseignant de SVT, Vincent, sur toutes ces étapes, ce qui va nous permettre de suivre un petit peu le déroulement du parcours.
Donc là, j'ai principalement des difficultés, moi, pour l'instant, là, sur cette rentrée avec mes 3 classes de 3e. Ça se passe bien avec mes classes de 6e, 5e et la classe d'accueil. Et je pense que c'est effectivement peut-être la gestion du groupe classe. C'est vraiment tout le groupe qui se ligue en fait contre le professeur, j'ai l'impression. Oui, il y a une sorte, au contraire, d'homogénéité, mais à l'encontre du travail. Comment en fait trouver une méthode pour éviter de travailler? Je l'ai vécu là, par exemple, hier avec la classe de 3e 4. Celle-là où d'ailleurs il y avait un élève qui s'est présenté dans la classe qui n'était même pas dans cette 3e 4. Et personne ne m'a dit que c'était un élève qui aurait jamais dû être là. Ils se sont tous dit non, on le laisse rentrer. Ils m'ont dit non, c'est un nouveau, c'est bon. Et puis voilà, c'est comment perdre du temps. Et puis...
Là, le parcours d'observation a créé cette forte dynamique, en tout cas a permis de montrer aux nouveaux qu'à Garcia Lorca, on ouvre les portes. Et ça, c'est pas mal. Il y a eu une adhésion de l'ensemble de la salle des professeurs pour ce parcours d'observation. Et c'était pas gagné au départ. Hein. C'était pas gagné. Même les anciens, ceux qui étaient réticents à ouvrir leurs portes, si on regarde les noms, on voit des personnes qui ont ouvert leurs portes et qui sont plutôt favorables, mais vraiment favorables à ce parcours d'observation. On a travaillé sur la confiance et on a bien dit qu'on ne veut pas juger les personnes, on veut juste observer d'autres pratiques. On n'oublie pas que le fil conducteur derrière, c'est se questionner sur sa pratique professionnelle, se rendre compte qu'à un moment, elle est peut-être insatisfaisante sur certains points, et essayer d'émettre des pistes pour des transformations plus ou moins lentes. Hein.
Tout à fait.
Rapide ou lente, ça on en discute, mais j'ai l'impression que ça va être au cap. Il y a deux choses, il faut tenir compte. Il y a le cas personnel où on va travailler de manière beaucoup plus personnelle avec l'enseignant, et puis il y a le travail en collectif, où on va essayer d'échanger sur des thèmes qui sont communs souvent, mais plus en collectif.
Alors, juste une pause aussi ici pour vous montrer que donc il y a ce temps d'accueil qui permet de mettre des mots sur un certain nombre de difficultés et de commencer à faire langage commun, culture commune. Ces temps d'observation qui permettent de manière... Voilà, tout en restant neutre au fond de la classe, de s'approprier un certain nombre de pratiques, de collègues, etc. Donc des temps qui sont progressifs et qui vont permettre petit à petit de rentrer dans l'analyse de l'activité réelle, mais de construire la confiance progressivement. Et il le dit à plusieurs reprises, hein, Zouir, c'est si on passe tout de suite à l'analyse de l'activité sans prendre la précaution de mettre les collègues en confiance, il n'y aura pas forcément grand-chose qui sortira des échanges. Et ce temps de construction du groupe... par des temps parfois un peu plus informels qui n'apparaissent pas sur cette vidéo, hein, donc par des échanges entre collègues en salle des professeurs, par des temps de travail peut-être plutôt en binôme, c'est essentiel. Et ça n'apparaît pas ici.
Par exemple, l'hypothèse, là, ça pourrait être, ben, moi, monsieur Lassagne, je me dis, tiens, je ne sais pas d'où vient le dioxygène qu'on a dans le sang, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il vient, il vient dans le sang, tiens, quand je ferme les yeux. Du coup, ben, la nuit, quand je dors, ben, c'est bon, je ferme les yeux. Donc le dioxygène, il passe dans mon sang. Et dans la journée, ben, en fait, il passe dans le sang juste quand je cligne des yeux. C'est une hypothèse. Évidemment, elle est ridicule, mon hypothèse. Mais si ça se trouve, il y a un grand scientifique à une époque qui s'est dit ça, et il a essayé, il a testé. Il s'est rendu compte que c'était pas ça. Je sais pas, il a dû faire une expérience, il s'est scotché les yeux comme ça, il est resté comme ça pendant 2 heures, il a vu qu'il avait survécu. À mon avis, il a dû pleurer un peu. Mais il s'est rendu compte que c'est pas quand on fermait les yeux que le dioxygène passait dans le sang. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une démarche d'investigation comme si on était des scientifiques, en formulant des hypothèses, donc une hypothèse à chaque fois, par paillasse, donc vous travaillez ensemble.
Vincent, tiens, quand je ferme les yeux. Du coup, bah, la nuit, quand je dors, bah, c'est bon, je ferme les yeux. Donc le dioxygène, il passe dans mon sang. Et dans la journée, bah, en fait, il passe dans le sang juste quand je cligne des yeux. C'est une hypothèse.
Là, je pense qu'ils sont attentifs. Bon, là, sur la vidéo, je vois que Jérémy est caché derrière son classeur, mais oui. Connaissant Jérémy, c'est pas pour faire n'importe quoi. Il est... Bon, il est pas dans la lune, il doit essayer de comprendre, là, actuellement. Mais non, là, je pense qu'ils sont avec moi. Enfin, en tout cas, en regardant la vidéo, j'ai l'impression qu'ils écoutent. D'accord. Et puis, voilà, le fait d'être vraiment presque rigolo dans mon hypothèse, bah, ils disent « Ah oui, d'accord. » Bon, bah, en fait, c'est facile, une hypothèse.
Donc là, vous voyez, hein, pour reprendre les éléments qu'on a donnés ce matin, la double phase de l'activité, la première, c'est la vidéo de classe où on observe Vincent qui fait cours, donc là, la phase visible, les actions. Là, c'est d'entretien, d'autres confrontations, donc c'est la face invisible, c'est voilà, comment il a vécu, comment il perçoit cette activité de classe. Avec toujours cette préoccupation hein, par rapport à la vidéo qui est quand même très exposant. Donc Vincent, il a été filmé, c'est lui qui a visionné la vidéo d'abord. Et c'est à sa demande que l'entretien d'autoconfrontation a été réalisé. Et c'est ensuite parce qu'il accepte que cette vidéo, elle va être mise au travail au sein du collectif. Et donc, c'est toujours l'observé qui garde la maîtrise de ce matériau.
Des fois, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'avoir une hypothèse juste. Le but, c'est de se préparer à rechercher comme le font les scientifiques aujourd'hui.
Est-ce que je peux juste faire une petite remarque parce que tu viens de dire, en fait, par rapport à ta lecture de consigne, j'aurais tendance à distinguer deux choses. Il y avait peut-être effectivement la consigne qui n'était pas assez... Elle est longue pour les élèves, 1, 2, 3. Et puis comme tu viens de dire, tu repars, mais ça me marque parce que je me rends compte que j'ai le même défaut en fait, encore aujourd'hui, c'est que tu repars en parlant des scientifiques. Ouais. Tu as fait ton commentaire, consigne, et on pourrait croire qu'on pourrait repartir, et non, recommentaire, ce qui en fait a encore sûrement attiré l'attention des élèves les plus passionnés, les plus motivés, qui en ont oublié la consigne, et qui sont partis dans ton commentaire.
Alors, un petit arrêt sur image aussi sur cette... alors, toujours ce langage commun. En termes de pilotage, comment ça se traduit à l'échelle de l'établissement? Eh bien, il y a une équipe qui se sont baptisés TAPAS, donc tuteur accompagnateur de professeurs arrivants, qui encadre ces nouveaux entrants dans le collège Garcia Lorca. Vous avez un collectif de pilotage qui est constitué à la fois de la principale, le principal adjoint, le chercheur et le correspondant Léa, donc qui est un enseignant, un des TAPAS. Cette équipe de 9 enseignants qui travaillent à l'accompagnement des nouveaux. Et puis, selon les années, en fonction du nombre d'arrivants, 15 à 20, ou cette année un peu moins, nouveaux enseignants dans l'établissement.
On s'est plutôt rendu compte que c'était porté par 2 enseignants et qu'il n'y avait pas de collectif, en fait, qu'il y avait très peu de collectif. Donc l'idée, ça a été de grossir ce collectif et de créer un socle pour pouvoir pérenniser le dispositif. Ça nous a permis de le faire. On a eu des enseignants qui sont restés stables dans l'accompagnement des nouveaux, une dizaine d'enseignants, 8-10 enseignants, qui sont restés stables d'une année à l'autre, et ça a permis de pérenniser le collectif. Donc ce collectif aujourd'hui, c'était l'année dernière, c'était toute classe d'âge, toute matière.
Après, bon bah du coup, on va essayer de débriefer un peu ce cours de 3ème 5.
Donc là, vous avez Vincent qui, au début de la vidéo, c'était en 2014, était nouvel arrivant dans l'établissement, et qui là, en novembre 2017, donc l'année dernière, est TAPAS, donc il accompagne les nouveaux arrivants. Et là, vous allez avoir un petit extrait qui introduit un temps de travail plutôt en binôme sur une activité qui est problématique, ou qui, voilà, une activité sur laquelle souhaite travailler le collègue qui est avec lui, qui est professeur d'espagnol. Et donc, un petit temps de rappel de comment on utilise un document vidéo, pour analyser ensemble ce qui s'est joué à ce moment-là.
Donc je resitue vite fait, c'est les troisièmes, c'était en M3 je crois
M4.
Donc quatrième heure de la matinée, donc c'est pas après une récréation. Donc c'est les troisièmes 5 et on est le 28 novembre, donc période de conseil pour nous, donc pas mal de fatigue. Donc on va regarder, je vais essayer d'abord dans un premier temps de décrire, si tu veux tu peux m'aider, tu interviens,
ouais, j'ai
juste dans la description au début, donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que tu fais. Ensuite, on essaiera j'essaierai de voir si j'arrive à mettre le doigt sur ce que tu voulais faire, sur ce que tu voulais avoir dans ta classe à ce moment-là. Pareil, tu me diras ce que tu en penses. J'essaierai éventuellement de te poser des questions pour voir si on arrive à réfléchir là-dessus. On verra ce qui s'est passé par rapport à ce que tu voulais, si on a le temps de le voir dans ce début de séance. Et puis, on verra si on pouvait améliorer ou si, au contraire, il y a des trucs qui sont super qu'on pourrait garder, qu'on pourrait essayer de prendre. C'est bon ?
Ouais.
Donc n'hésite pas, tu fais des pauses quand
tu veux. Je t'achète un vinaigre, qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà. Donc voilà, entre 2012-2013 et 2017, voilà comment se déroulait ce dispositif d'accueil des nouveaux arrivants à Garcia Lorca, et voilà comment vivait ce collectif. Si on reprend maintenant la grille et qu'on essaye de positionner ce collectif en essayant de faire varier les différents indicateurs que j'ai présentés. Alors la première chose, c'est que le Zouir le dit à plusieurs reprises, il y a une vraie stabilité de l'équipe d'accompagnateurs. Qui se sont dotés, voilà, qui se connaissent, qui se font confiance, et qui ont construit à la fois entre eux une éthique professionnelle, mais aussi qui ont construit un cadre qui permet d'accueillir les nouveaux dans ce cadre éthique. Hein. Ils ont bénéficié du soutien institutionnel à différentes échelles, d'abord à l'échelle de l'établissement pour construire ce dispositif, hein, ces différents temps de travail, donc par des aménagements de l'emploi du temps qui permettent par exemple entre septembre et le début des vacances de la Toussaint de structurer ce fameux parcours d'observation, quitte à décharger parfois certains collègues de cours pour qu'ils puissent aller observer tel ou tel collègue. Un soutien aussi institutionnel au niveau de l'académie, puisque pour filmer les séquences de classe, ils ont un financement, hein, ils ont des tablettes qui sont à disposition et qui permettent de filmer les séquences de cours, les séances de cours. Et puis un soutien à l'échelle donc plutôt nationale, puisque c'est un établissement qui est rentré dans le dispositif des lieux d'éducation associés et qui, à ce titre-là, travaille en collaboration avec un chercheur et des chercheurs, puisqu'il y a eu aussi Valérie Lucie-Borreur qui a travaillé à Garcia Lorca. Donc, soutien institutionnel. Ensuite, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais il y a un petit extrait de témoignage de Vincent, toujours, qui dit à quel point il a vécu le travail dans ce collectif comme quelque chose de très, très utile, très directement, hein, dans son travail quotidien. Il était, je crois, TZR la deuxième année et nommé dans un autre établissement. Il a tenu à rester, à continuer de participer à ces séances de travail collectif parce qu'il y voyait un intérêt immédiat dans ses pratiques professionnelles au quotidien en classe. Donc, vecteur de professionnalisation et vecteur de développement professionnel aussi pour les enseignants accompagnateurs, puisque certains se sont engagés dans des masters, certains sont devenus maintenant formateurs éducation prioritaire pour continuer ce travail d'accompagnement à plus grande échelle cette fois-ci. Un collectif implanté aussi en ce qui concerne l'organisation, puisqu'ils ont structuré, bon, vous l'avez bien vu, hein, des temps dans l'année pour mettre en place ce dispositif de formation sur la place du travail. Des méthodes et des ressources qui sont dédiées au collectif, donc un espace de travail sur Google Drive qui permet de mutualiser un certain nombre de documents. Ils ont aussi créé des outils, donc ce fameux livret d'accueil qui vous était présenté dans la vidéo, qui permettent de positionner des repères communs pour comprendre le fonctionnement et la vie de l'établissement. Et des outils qui sont partageables dans le sens où ça a permis à d'autres établissements de s'emparer de l'outil et de créer leur propre livret d'accueil un peu sur ce modèle. Alors, je l'ai déjà dit, en termes de leadership, c'est distribué de manière extrêmement explicite, hein, avec même des rôles qui sont attribués à certains enseignants, pas seulement des enseignants accompagnateurs d'ailleurs, des enseignants débutants aussi, qui vont par exemple avoir la tâche de réaliser des petits comptes rendus très brefs de ce qui s'est dit et des difficultés qui ont été abordées au sein des groupes de travail en collectif pour essayer de garder la mémoire des échanges, hein, et des difficultés et des solutions qui ont été identifiées. Donc une coordination explicite des tâches et des rôles de chacun, y compris au sein de l'équipe des accompagnateurs, avec certains qui vont plutôt se positionner sur les premiers temps d'accueil plutôt informels en début d'année, d'autres qui vont être plutôt sur le suivi en binôme tout au long de l'année, et d'autres plutôt sur l'animation de ces fameux temps en collectif où ils sont 20, parfois 30, à échanger sur une difficulté donnée, problématisée, etc. Alors, des objets de métier qui sont partagés, qui sont plutôt liés aux préoccupations des nouveaux, donc plutôt liés à la gestion de classe. Hein. Pour vous donner quelques exemples de thématiques qui sont travaillées, ça va être la gestion des retards, la transition entre activités, le début de classe, etc. Donc des objets qui sont bien précis et qui donnent lieu à des controverses professionnelles, hein, sur est-ce qu'on utilise des rituels, lesquels, pourquoi, etc. Pour positionner rapidement ce collectif, peut-être que sur cette période toujours 2013-2017, peut-être le point qui faisait problème, c'est cette capacité à faire du lien d'une année sur l'autre et du lien entre les acteurs, puisqu'il y a un certain nombre de professionnels qui auraient leur place légitimement au sein de ce collectif, qui n'en font pas partie. Je pense notamment aux coordonnateurs, qui ne font pas partie de ce collectif. Mais c'est aussi lié à des histoires locales, etc. Et puis, le fait que finalement, d'une année sur l'autre, les enseignants accompagnateurs ont souvent l'impression de devoir recommencer à investiguer les mêmes problématiques. Mais c'est lié aussi à l'enjeu, hein, ici, c'est d'accueillir les nouveaux arrivants. Donc forcément, on se réempare chaque année des mêmes problèmes. La troisième période, hein, puisque tout à l'heure, sur ma frise chronologique, j'avais collectif émergent, collectif implanté. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de transition. Alors, est-ce qu'on va déboucher sur une organisation apprenante ou est-ce qu'on va repartir à l'étape de collectif émergent? Pour l'instant, c'est un peu en questionnement avec donc, ce que vient d'évoquer Luc, hein, le fait que les enseignants qui sont plus chevronnés se lassent un peu de chaque année réinvestiguer les mêmes objets qui leur semblent acquis. Cette nécessité de remettre les objets du collectif en discussion et les objectifs en discussion et d'aller peut-être vers un plan de formation, un dispositif de formation qui s'adresse à la fois aux débutants et aux plus experts en conservant ce type de dispositif en collectif avec des analyses un peu fines de l'activité. Un questionnement aussi autour du pilotage, puisqu'il y a eu l'année dernière un renouvellement complet de l'équipe de pilotage et que forcément ce n'est pas sans remettre en question un certain nombre d'éléments en termes de soutien institutionnel. Donc quels sont les temps qu'on peut conserver pour continuer de dialoguer en collectif? Donc ça, c'est quelque chose qui est en débat aujourd'hui, d'autant que, donc vous l'avez entendu tout au début de la vidéo, Zouir mentionnait le fait qu'ils avaient 9 heures de décharge en tant qu'enseignant accompagnateur, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc ce qui pose la question de comment on permet à ces enseignants accompagnateurs de continuer ce travail d'accompagnement. Et puis des questionnements aussi en termes d'organisation que j'ai déjà évoqué. Est-ce que ce sont des temps qui sont communs à l'ensemble de l'équipe, donc ce qui est le cas actuellement, de 16h à 18h le mardi, ou est-ce qu'on va accorder des temps simplement aux professionnels qui sont investis dans ce collectif, quitte à poser des temps de regroupement qui ne sont pas ouverts à tous, avec par exemple des réunions qui ont lieu en même temps, etc. Alors voilà, donc c'est un collectif qui est en cours de transformation qui se questionne beaucoup sur son identité professionnelle, son identité collective. Ça, c'est un collectif de formateurs de premier degré, qui s'est rassemblé en fait autour d'un objet commun, d'une difficulté commune, c'est-à-dire comment on utilise la vidéo, nous en tant que formateurs, pour former, pour accompagner les enseignants. Et puis très rapidement, c'est un collectif qui a su développer un langage commun, une grille de lecture commune, et de la vidéo formation, les collègues se sont déplacés dans leurs objets de travail et sont rentrés plutôt sur les questions des gestes professionnels des formateurs. Et donc chaque réunion, ils ont 3 temps de travail dans l'année, a été l'occasion d'interroger un geste professionnel. Donc un collectif implanté en ce qui concerne les objets et les objectifs. Là encore, un petit point de vigilance en ce qui concerne le pilotage, et c'est toujours pas moi qui le dis, ce sont les collègues qui ont utilisé l'outil pour se positionner et qui ont identifié le fait que finalement, il y a 3 CPC qui copilotent le travail collectif et que, alors ils sont une vingtaine hein, de formateurs CPC, PEMF, qui se regroupent à l'échelle départementale dans l'Ain et qui travaillent sur cette question des gestes professionnels des formateurs. Et finalement, le pilotage du collectif et la question de quand est-ce qu'on se rencontre, sur quels objets, est-ce qu'on fait intervenir des intervenants extérieurs, etc. C'est 3 CPC qui le prennent en charge, avec toujours ce risque à la fois d'essoufflement, parce que ça demande quand même un temps de préparation assez conséquent. Et puis voilà, s'il y en a un des 3 qui choisit de partir, est-ce que le collectif pourra perdurer? Et en termes d'organisation, donc je l'ai dit, un calendrier annuel, ils sont presque dans l'organisation apprenante dans le sens où ils ont publié un livret qui reprend un certain nombre d'éléments de leurs échanges hein, sur comment on utilise, nous, en tant que formateurs, la vidéo, à quel moment, de quelle façon, selon quels objectifs, quelle méthodologie. Et qu'à partir de ce livret, ils ont animé un certain nombre de formations, cette fois-ci à l'échelle académique, pour remettre en questionnement hein, leurs pratiques telles qu'ils l'ont formalisée. En termes de professionnalisation, donc là aussi, si je reprends les mots qui ont été utilisés par les collègues pour se positionner, ils ont insisté sur le fait qu'il y a une vraie circulation de l'expertise et une grande richesse de communication au sein du groupe qui leur permet à la fois, en fonction des apports de chacun, d'expérimenter et puis de faire des retours d'expérience de manière systématique. Et le fait qu'il y a un vrai langage commun qui s'est développé au sein du collectif et qui a été vraiment vecteur pour eux de décalage en termes de positionnement professionnel dans leur métier de formateur. Donc voilà, si on veut positionner ce collectif, quelques points de vigilance. Le premier, c'est sur les objets et les objectifs. Donc ça, c'est toujours la collègue qui le formule et qui dit finalement, pour ne pas essouffler le collectif, peut-être qu'il faut penser les apports extérieurs. Donc là, c'est réinterroger les objets, les objectifs en termes de comment on nourrit le travail pour ne pas rester dans l'entre-soi, mais se nourrir de ce qui vient de l'extérieur pour réinventer nos objets. Et donc, je l'ai dit en termes de pilotage, la question de la pérennisation, comment on pense à un pilotage, comment on pense le transfert de pilotage d'une année sur l'autre. Avec cette question du soutien institutionnel aussi qui émerge dans l'analyse qu'ils en font, c'est-à-dire que pour l'instant, ils sont simplement défrayés, donc ils se regroupent 3 fois par an, donc leurs frais de déplacement sont remboursés. C'est le seul soutien institutionnel qu'ils ont obtenu. Peut-être qu'il y aurait autre chose à penser ou à solliciter pour leur permettre d'instaurer cette activité collective dans la durée. Alors je ne fais pas plus long, j'aurai d'autres exemples à vous proposer hein, qui font varier à la fois les échelles, les objets. Simplement voilà pour vous montrer comment on peut s'emparer de cet outil pour questionner à la fois le positionnement d'un collectif et l'accompagnement d'un collectif.